Voilà, bonsoir à tous. Alors donc je découvre l'autre côté de la barrière ce soir. Et je vais tenter de vous faire goûter Nietzsche du point de vue de son itinéraire spirituel. Alors c'est vrai que peut-être qu'il faudrait commencer par une petite méditation sur cette notion même d'itinéraire. Et c'est vrai que c'est un petit peu peut-être le sens de ce choix que j'ai fait d'intituler ces conférences « Itinéraire spirituel » car comme vous le savez, ou peut-être pas, le mot « itinéraire » aujourd'hui a un sens technique assez restreint, pour ne pas dire restrictif. Il s'agit tout simplement de la route à suivre pour aller quelque part. En fait, on trouve par exemple en 1690 un sens assez différent, non pas pour itinérisme, mais pour itinérarium, justement, recueil de prières à dire en voyage. Ou encore, d'une manière générale, un itinéraire, c'est une relation de voyage. Donc ça suppose que dans la notion même d'itinéraire, il y a une relation, c'est-à-dire un récit. Et je pense que c'est un point commun fondamental qu'il y a entre la vie de l'esprit et le récit, c'est la dimension du temps, évidemment. Et je me demande d'ailleurs dans quelle mesure l'expression itinéraire spirituel n'est pas très exactement ce qu'on pourrait appeler, au moins pour son sens premier ou ancien, un pléonasme. Donc l'itinéraire, c'est forcément une réflexion sur le chemin parcouru, sur le chemin qui reste à parcourir, mais c'est une réflexion, je dirais, sur la notion même de chemin. Et je crois que quelqu'un en a parlé et a donné toutes ses lettres de noblesse à l'idée même de chemin qui semblerait même passer avant la vérité et la vie. Le chemin, ça suppose effectivement une orientation, d'aller d'un point à un autre. Ça suppose qu'on est dans la flèche du temps et que quand bien même on reviendrait au point de départ, on est dans une évolution, on est dans un parcours où demain n'est pas identique à aujourd'hui et a fortiori à hier. Il y a évolution, il y a transformation. Et je pense que cette idée de chemin, d'itinéraire, renvoie à la fois à quelque chose que nous comprenons tous assez spontanément, à savoir que la vie est un voyage, c'est un pèlerinage, et que c'est sans doute le sens spirituel, généralement, des pèlerinages, que de faire réfléchir, effectivement, à ce qu'est la vie en général et notre vie en particulier. La vie est un voyage, la vie est une épreuve au sens photographique de ce terme, qui fait ressortir ou qui fait apparaître ce qui doit apparaître. La vie est une apocalypse, au sens étymologique de ce mot, doit révéler enfin quelque chose. Et puis, si on se place du point de vue de l'apprentissage et de la connaissance, vous savez que le mot grec pour dire chemin se dit tout simplement méthode. C'est donc quelque chose d'intellectuellement bien compréhensible, d'existentiellement très fort, mais c'est aussi, je crois, la référence à une grande tradition spirituelle, plutôt théologique d'ailleurs, et qui lie le théologique à l'historique, et qui pense encore une fois que la vérité de Dieu ne peut se manifester que dans la dimension du temps. Et par quoi d'ailleurs ? La physique contemporaine, contrairement à une physique précisément antérieure ou newtonienne, la physique contemporaine réfléchit précisément à cette évolution, à ces phénomènes qui sont en eux-mêmes irréversibles et qu'on ne peut pas répéter en quelque sorte à satiété par des processus ou des protocoles expérimentaux. Et c'est vrai que je vous renvoie peut-être à un livre que vous connaissez qui est un peu un classique de Julius Gutmann qui s'appelle « Histoire des philosophies juives, des origines à Rosenzweig » et qui fait une magnifique introduction et qui dit qu'au fond, il y a peut-être deux grandes traditions philosophiques, religieuses. Une tradition immémoriale, qui reste vraie d'ailleurs, et qui nous concerne, et qui nous parcourt encore, et qui consiste finalement à penser et à s'efforcer pratiquement pour que notre vie puisse rejoindre ou retrouver un contact avec le secret de l'univers, avec les forces secrètes de la nature. Et puis il y a une autre famille, une autre tradition, qui est évidemment plutôt la tradition hébraïque et la tradition biblique, qui pense que, précisément, il n'y a pas une sorte de secret ou de dimension cachée et immémoriale qu'il faudrait rejoindre, mais qu'au contraire, Dieu, ce qui le caractérise, ce n'est pas tant qu'il est toujours ce qu'il est, mais c'est le fait qu'il fasse irruption dans l'histoire. Et que Dieu, c'est essentiellement quelqu'un qui se manifeste dans l'histoire, qui a lui-même une histoire et qui crée une histoire. Et dans le jargon des philosophes, on dirait que Dieu n'est pas simplement historique, il est historial, ça veut dire qu'il fait une histoire, il ouvre une histoire. Ces deux dimensions fondamentales sont terriblement présentes dans la personnalité et dans la pensée de Nietzsche. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que Nietzsche, à lui seul, représente ô combien la notion même peut-être d'itinéraire spirituel en tant que pour lui, dans sa propre pensée, dans sa propre vie, il y a toujours eu une tension extraordinaire entre, d'un côté, une tendance, effectivement, qui pourrait se caractériser par ce qu'il nomme l'éternel retour, qui est chez lui comme une sorte d'intuition ou d'expérience mystique qui lutte un jour, éternel retour qui serait comme justement la manifestation des forces de la nature et du fait qu'il n'y a rien en dehors du tout ou en dehors du monde. Et en même temps, paradoxalement, Nietzsche est toujours présenté d'une manière très explicite comme un philosophe de l'avenir, comme un philosophe pour l'avenir. Et d'une manière, vous savez que Nietzsche s'exprime en dehors de toute forme de modestie, ce qui le rend finalement assez sympathique. On ne peut pas l'accuser de fausse modestie. Et c'est vrai que Nietzsche, qui est allemand, traite avec une certaine légèreté de monstres sacrés que sont Kant et Hegel. Il disait, mais ces deux-là ne sont que des ouvriers de la philosophie. Les ouvriers de la philosophie, ce sont des gens qui doivent nous dire ce qui est. Moi, je m'occupe de ce qui doit être. Voilà. C'est dans ce sens-là, certainement tout à fait faux, et on trouverait certainement chez Hegel ou chez Kant, évidemment, la dimension du devoir-être. Mais c'est une manière de dire que la seule chose qui l'intéresse, finalement, c'est une nouvelle espèce de philosophe, un nouveau type d'homme, des temps nouveaux, une nouvelle aurore. C'est une véritable obsession chez Nietzsche. C'est vraiment un penseur que je dirais à la fois historien et historique, et entièrement tourné vers l'avenir, malgré évidemment l'immensité de sa culture. Et donc un philosophe aussi tendu entre une sorte d'immanentisme et puis évidemment cette dimension de la transcendance, de l'avenir, de ce qui n'est pas encore et qui sera peut-être un jour. Et c'est vrai que quand on dit l'homme et le monde, Nietzsche riait et disait vraiment cette conjonction de coordination est ridicule. L'homme n'est pas un état dans l'état, ce qui est déjà une pensée qui appartient en profondeur à Spinoza. Donc ça, c'est sa dimension, je dirais, immanentiste, cette idée que le moi n'est qu'un effet de surface, que la conscience est une illusion. Mais en même temps, tout dans sa pensée et tout dans sa vie montre qu'il est littéralement en marche vers une sorte d'ailleurs et qu'il est de ce point de vue-là ô combien, un fils de la Bible, ce qui, de mon point de vue, ne fait aucun doute. Et puis, méditer sur la notion d'itinéraire spirituel, c'est méditer aussi sur une question qui nous est commune à nous tous, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que je fais de ma propre vie, compte tenu de ce que j'ai reçu et compte tenu de ce que je peux ? Et Je crois que la pensée de Nietzsche est une méditation constante sur la notion du destin. Et ce destin dont il parle toujours sous la forme de l'amor fati, l'amour du destin. Alors je pense qu'effectivement, l'idée du destin ne vient aux esprits que dans la mesure où on a rencontré des résistances, des difficultés, des obstacles dans la vie en général et dans sa propre vie en particulier. Et Dieu sait si Nietzsche, très tôt, a rencontré le malheur, la difficulté, l'obstacle. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, très tôt, il a été amené à méditer sur cette notion de destin. Et en même temps qu'il a pris en quelque sorte une option pour cette grande tradition philosophique plutôt antique, qui est celle du destin, il y a toujours eu chez Nietzsche une profonde identité, une profonde identification entre fatalisme et volontarisme. Et je pense que là, qu'on le veuille ou non, il y a une ressemblance très forte, une intimité profonde avec ce qui fait le cœur de la spiritualité protestante. Car au fond, dire que Dieu peut tout et que l'homme ne peut rien face à Dieu ou vis-à-vis d'une grâce qui ne peut être que reçue, qui ne peut être que donnée et acceptée, c'est bien, dans une certaine mesure, déclarer l'homme impuissant face à quelque chose qui le dépasse, mais nous savons bien, et parmi les plus grands l'ont longuement analysé, il se trouve que sur le plan pratique, cette forme de spiritualité débouche sur son contraire. C'est-à-dire que si précisément, Dieu est tout à fait au-dessus de l'homme, d'une autre nature ou d'un autre ordre, si Dieu parle, certes, au travers de la parole, mais ne peut pas directement nous parler au travers de la nature, que ce soit la nature extérieure ou que ce soit la nature de notre esprit, ce que généralement veulent les philosophes, trouver Dieu dans l'exercice même de leur esprit, hein, le Dieu des philosophes et des savants ou le Dieu de la théologie naturelle, si Dieu ne parle qu'au travers du langage en venant d'un au-delà, ça signifie aussi que l'homme a les mains libres pour ce monde, dans sa vie et pour sa vie. Et on retrouve cette identité de la soumission et de l'insurrection de la volonté, je crois, dans l'histoire du protestantisme, comme, me semble-t-il, on le trouve au cœur même et du caractère et de la vie de Nietzsche. Alors, quel chemin vais-je prendre pour vous faire comprendre cet itinéraire spirituel de Nietzsche? Dans un premier temps, je ferai une petite biographie, si vous voulez, rapide, en essayant de poser 2-3 questions sur cette biographie. Dans un deuxième temps, j'essaierai de comprendre un peu mieux, effectivement, son équation personnelle et la manière que Nietzsche a pu avoir pour tenter de la résoudre. Et dans une troisième partie, enfin, nous essaierons de synthétiser ce que Nietzsche a à nous dire de particulièrement intéressant ou d'éclairant, selon moi, c'est un choix que je fais et que j'opère, d'intéressant pour nous aujourd'hui. Alors, sa biographie. C'est vrai que je vous conseille une vieille biographie, peut-être un peu vieux jeu, mais que je trouve formidable. C'est celle de Daniel Halévy. Vous savez que Daniel Halévy a été un des grands introducteurs de Nietzsche en France. C'était le grand-père maternel de Pierre Jox. Et donc, vous trouverez cette fabuleuse petite, épaisse biographie de Nietzsche dans le livre de poche, je crois, collection, je ne sais plus trop quoi, enfin, ça se trouve très facilement. C'est, je trouve, la meilleure, même si on a fait des progrès, évidemment, depuis cette biographie, mais je trouve que c'est la meilleure. Alors, je distingue des temps. Premier temps, l'enfance et la jeunesse. Il est né le 15 octobre 1844, près de Leipzig, dans ce qui était l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc de 44 à 68. Il est le fils, évidemment, de Karl Ludwig, qui était pasteur. Il a fait ses études au collège de Pforta, qui était une sorte de collège pour former une élite protestante, éducation à la dure, lever 5 heures du mat, prière, office, Hopstungemuse, voilà, un peu de natation dans la rivière froide, et puis travail intellectuel à haute dose. Bon. Ensuite, il a fait une brève incursion dans la théologie. En fait, ce n'était pas tout à fait sa vocation. Et il est passé à la philologie, où effectivement, il a été repéré par un homme qui fut son maître. Et il était tellement brillantissime que l'université de Bâle l'a appelé pour occuper un poste de philologie grecque à l'âge de 24 ans. Vous le savez, mais ça j'y reviendrai, son père est décédé alors qu'il est encore tout jeune. Deuxième période, l'irruption dans la vie publique, 68-74. La guerre de 70, c'est un moment très important, il éprouve le besoin de venir la faire en tant que brancardier. Et je pense que ça l'a beaucoup, certainement beaucoup frappé, parce que c'est sûr que brancardier, ça vous met dans un poste d'observation particulièrement privilégié pour voir les horreurs de la guerre. C'est aussi la période où il vit une sorte de grande amitié avec Richard Wagner. C'est le moment aussi des premières œuvres de Nietzsche, d'abord plus confidentielles, des articles de philologues, mais surtout, bien évidemment, la naissance de la tragédie, qui est sa première grande œuvre et qui est assez remarquable dans la mesure où elle bouleverse un petit peu l'idée que l'on se faisait de la Grèce et de montrer que précisément, si la Grèce est classique, c'est qu'elle fut d'abord tragique et que le sens de la mesure n'a de sens que sur le fond d'un sentiment, au contraire, et d'une prédisposition à la démesure. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que autant Nietzsche a expliqué qu'il avait choisi la philologie comme pour restreindre son caractère qui le portait à s'intéresser absolument à tout et pour se donner une rigueur intellectuelle. Mais en même temps, on voit bien en lisant La naissance de la tragédie que le philologue n'a pas réussi à comprimer en quelque sorte le philosophe et qu'il y a là véritablement une entreprise philosophique puisque, vous le savez sans doute, certes ceux qui l'ont lu, qu'il y a là une manière de réinterpréter l'art comme le fruit ou le mariage des deux tendances ou des deux puissances, l'une représentée par le dieu Apollon, dieu de la forme, et Dionysos, dieu de la force. Apollon plutôt du côté des arts plastiques et Dionysos plutôt, bien évidemment, du côté de la musique, et la musique étant elle-même comme étant l'essence de la tragédie, on ne peut pas développer. C'est le moment où il découvre Schopenhauer, qui va être évidemment pour lui la grande philosophie qui va vraiment le passionner. Schopenhauer qui d'ailleurs, chose rarissime dans toute l'histoire de la philosophie, comme pour Nietzsche, car les philosophes ne sont jamais précoces, sauf quelques rares exceptions, Schopenhauer écrit sa grande œuvre entre 25 et 30 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et le titre de l'œuvre de Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, est très intéressant. Pourquoi ? Parce que justement, le terme, le concept de volonté n'a pas, vous le sentez bien, vous le voyez bien, une signification ni anthropologique ni psychologique, mais bien cosmique. Et donc, dans l'idée que le monde lui-même peut être volonté, il y a là certainement la racine du concept de volonté de puissance chez Nietzsche, qui n'a rien à voir avec le désir psychologique du pouvoir, mais qui est une réponse, si vous voulez, aux questions métaphysiques sur l'essence de l'être. Tout est volonté de puissance. Bon. Mais je n'y reviens pas tout de suite en tous les cas. Voilà, donc c'est une période d'euphorie qui correspond aussi à une dilatation nationaliste allemande, ce moment où l'Allemagne a cru vraiment qu'elle serait la Grèce, la relève de la Grèce, c'est-à-dire la puissance militaire, la puissance économique et la puissance intellectuelle et artistique. Et donc c'est ça que vit Nietzsche avec Wagner, mais c'est avec cela que Nietzsche va rompre. Alors, 74-80, je dirais le début de l'exil, le désert. Nietzsche ne supporte plus l'université. Nietzsche voit sa santé se dégrader. Alors, je ne sais pas où est la cause, où est l'effet. Enfin, bref, il quitte, il s'en va. Il obtient une pension et ça sera un philosophe errant, finalement, à peu près jusqu'à la fin de ses jours, connu par un petit cercle d'intimes, mais finalement très peu connu. « Je suis de ceux qui naissent posthumes », disait-il. Comme s'il savait, comme s'il sentait que ce qu'il avait à dire, que ce qu'il portait ne pouvait pas être vraiment entendu par ses contemporains. Alors le début commence par un travail effectivement de déconstruction de la morale et de la religion. C'est une période assez sombre. C'est dans cette période qu'il écrira notamment Aurore. Quatrième temps, je dirais la pleine maturité, les années 80-84, relatif bonheur, le gai savoir, l'intuition ou l'extase de l'éternel retour, un jour d'août 1881, auprès du lac de Sils Maria, en Haute-Engadine. Ainsi parlait Zarathoustra en 83, la rencontre avec Lou Salomé, qui a été un petit peu sa muse, mais en même temps, bon, qui n'a pas été l'amante sans doute qu'il désirait. Cinquième étape, je dirais le feu d'artifice final et le naufrage. Donc, de 84 à 89 et de 89 à 1900, puisqu'il est mort en 1900. Donc 84-89, par-delà bien et mal, généalogie de la morale, le recueil, la volonté de puissance qui ne verra jamais le jour, mais sur lequel il travaille, et une foule de petits opuscules, le crépuscule des idoles, Ecce Homo, l'Antéchrist, le cas Wagner, qui sont assez extraordinaires, assez éblouissants, et en même temps où on sent bien quelqu'un qui perd un peu le sens de la mesure. Il s'effondre un jour de janvier à Turin, c'est assez extraordinaire, en se jetant, si j'ose dire, pour porter secours à un cheval qui était maltraité par son cocher. Voilà, et de 89 à 1900, plus rien. Un peu de piano, enfin bon, plus rien. Extinction des feux. Et il est mort en 1900, c'est-à-dire à l'aube du XXe siècle. Quelques réflexions sur cette biographie. Fils de pasteur, non pas au carré ou au cube, mais à la puissance N. Alors ça, c'est très intéressant en soi. C'est très intéressant sur le plan psychologique, mais même sur le plan civilisationnel et culturel. Donc fils, petit-fils, arrière-petit-fils, son oncle, son grand-père maternel, enfin l'enfer, que des pasteurs. Que des pasteurs. Non, mais ça pose, c'est assez intéressant. Donc, comme diraient les Anglais, racing horse, du point de vue de la sélection. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est le produit d'une longue lignée d'hommes qui sont faits pour l'esprit. Ça veut dire quelque chose. Alors, évidemment, comme toujours, ça peut produire évidemment des Ferrari, mais les Ferrari, évidemment, peuvent sortir de la route. Et c'est évidemment un peu le problème de Nietzsche. Si vous roulez à 300 à l'heure, les conséquences d'une sortie de route ne sont pas les mêmes que si vous roulez à 30 à l'heure. Il y a une immense fécondité du fait que les pasteurs aient pu se marier. Je pense que c'est une décision capitale de Luther, capitale, et qui marque l'histoire en général et la civilisation protestante en particulier. Ça change énormément de choses. Et c'est vrai qu'il y a eu des statistiques célèbres, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, au XIXe siècle, sur le pourcentage tout à fait saisissant d'enfants de pasteurs dans le domaine des sciences, des arts, enfin, etc. C'est tout à fait considérable, tout à fait considérable. Et il semblerait que les pays catholiques se soient littéralement privés, de ce point de vue-là, de la fécondité, précisément de cette possibilité qui est offerte aux pasteurs de se marier. Alors, ceci dit, il y a peut-être aussi des inconvénients. Vous savez que la décision catholique romaine du célibat est arrivée à un moment où c'était une manière aussi de casser un système de reproduction sociale du pouvoir, dans la mesure, évidemment, où dans l'Église de l'époque, c'était lié à des situations matérielles, etc., etc. Et donc, dans le choix catholique du célibat, il y a aussi une forme de sagesse aussi par rapport à ce type de phénomène. Et c'est vrai que le protestantisme, bon, soi-disant anticlérical, génère aussi sa cléricature très particulière, mais qui est même de type dynastique. Ça existe, des dynasties de pasteurs.
Sur le mur du fond.
Eh oui, c'est très intéressant. Donc Nietzsche est un représentant génétique et culturel de ce phénomène très particulier qui est le pastorat dynastique. C'est très intéressant en soi. Très intéressant en soi. Et c'est vrai que, encore une fois, pour le meilleur et peut-être pour le pire, dans le cas de Nietzsche, c'était peut-être trop lourd à porter. L'autre grande caractéristique, si vous voulez, c'est que Nietzsche est très tôt accablé par le malheur, parce que visiblement, bon, ça se passait très bien avec ce Karl Ludwig, qui était un homme délicieux, le peu qu'on sache de lui, c'est un homme très fin, cultivé, musicien, lettré, bon pasteur, enfin le pied total, il meurt. Bon, évidemment, ça pose problème. Quand on a 4 ans et demi, quand tout va bien, et que, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, la mort d'un homme comme ça. Donc, je crois que Nietzsche est très tôt accablé par le malheur, parce que aussi, bon, bah, c'est toute la situation sociale de la famille qui va se transformer. Mais c'est très intéressant, parce que de toute manière, dans toute vie, à un moment ou à un autre, le malheur arrive. Il se trouve que chez lui, c'est arrivé très tôt, dans une nature particulièrement sensible. Bon. Et puis, je crois que Nietzsche, c'est le produit de deux choses, justement, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire quelque chose d'hyper malheureux, avec un tempérament hyper religieux. Et ça, c'est très, très intéressant, parce qu'il a vraiment vécu, et dans son esprit et dans ses tripes, cette bonne vieille question, mais qui est justement une très bonne question. C'est quoi cette histoire de Dieu compte tenu de la souffrance et du mal? Et vous pourrez toujours trouver toutes les solutions intellectuelles à ce problème, et Dieu sait s'il y en a. Ça revient sans cesse. Ça revient sans cesse dans les esprits, et ça revient sans cesse dans nos propres vies. Donc Nietzsche, il commence sa vie là-dessus, sur cette question-là. Et c'est pour ça que je crois que ce qu'il a à nous dire est vraiment très intéressant, au-delà de son propre cas. Deuxième partie de mon exposé, comprendre donc cet itinéraire. Spirituel, donc. Dans un premier temps, l'évidence d'une foi transparente et cristalline comme l'eau d'un torrent, Alpin. Il aime son papa et il aime Dieu. Et ça va tout seul, ça va très très bien. Il est spontanément dans l'évidence de la foi. Et puis la mort du père, évidemment. La mort du père arrive, où il y a forcément une émotion particulière quand le père a pour profession de parler du père avec un P majuscule. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est un phénomène relativement banal et relativement connu, mais c'est toujours pareil, quand on le vit, c'est moins rigolo, un phénomène écrasant de culpabilité psychique qui se couple de la culpabilité religieuse, liée à cette théologie enfantine qui voudrait que Dieu soit absolument tout-puissant et passe son temps à distribuer des punitions et des récompenses. Alors, il ne faut pas rigoler de cette théologie enfantine, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement une théologie enfantine, mais c'est l'essence même de la religion. De la religion peut-être telle que Durkheim l'a finalement compris. La puissance de cette théologie ne vient pas d'une théologie. La puissance de cette théologie vient des structures anthropologiques de l'esprit et surtout des structures sociales. Il n'y a pas de société qui ne puisse fonctionner sans un système de culpabilité. Ce n'est pas la religion qui invente la culpabilité, c'est la société. Et la religion amplifie, bénit, sacralise ce système de gestion de la violence et de la culpabilité qui est, dans une certaine mesure, le point où religion et société sont, dans une certaine mesure, profondément identiques. Et dans l'histoire religieuse de l'humanité, le théisme est très largement minoritaire. Arrêtons de confondre la question de l'existence de Dieu ou du théisme avec la question de la religion. Ce sont deux questions qui ne se touchent que marginalement. Donc ce qu'on croit être une théologie enfantine, c'est structurel à l'anthropologie et à la vie sociale. Simplement, ça arrive au petit Nietzsche, à 4 ans et demi, ou je ne sais pas trop quoi, plus le complexe d'Oedipe, enfin tout le bazar, etc., etc. Donc, ça va très mal. Donc, il est persuadé d'avoir mérité sa souffrance et que Dieu lui envoie cette souffrance. et que, comme il souffre énormément, et qu'il l'a mérité, et que c'est Dieu qui le fait souffrir, alors il faudra qu'il rampe toute sa vie, et qu'il soit dans la soumission la plus totale à ce Dieu vengeur et terrible qui fait tant souffrir. D'où la naissance bidon de sa vocation bidon de pasteur. Car il a évidemment eu la vocation de pasteur, mais forcément il n'avait pas le choix de toute manière. Et il s'est rendu compte d'ailleurs que ce n'était pas une vocation de pasteur, mais une névrose personnelle. Et il s'en est débarrassé quand il a abandonné les études de théologie à Bonn. C'est à l'adolescence que Nietzsche va devenir Nietzsche. C'est-à-dire au moment où précisément le caractère commence à s'affirmer. Et qu'est-ce que Nietzsche va découvrir à l'adolescence? Deux choses, la Grèce et la science. Il va découvrir la Grèce, c'est-à-dire un monde où le système de culpabilité ne fonctionne pas de la même manière. Il n'y a que les imbéciles pour penser que la Grèce antique ne connaît pas la culpabilité. Simplement, ce n'est pas une culpabilité qui fonctionne selon les mêmes ressorts. Et quand il étudie et quand il pense avec les Grecs, il se sent libéré de sa culpabilité qu'il croit chrétienne, si j'ose dire, et qui est liée, encore une fois, plus à la société et à son âge qu'à l'Évangile. Mais vous savez que bon, l'Évangile ne gagne pas toujours la partie dans l'histoire du christianisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis la découverte de la science. Hein, c'est-à-dire qu'on est à une époque où précisément les sciences philologiques prennent leur essor. Et dans une certaine mesure, d'ailleurs, ses études au collège, comme en théologie, vont contribuer effectivement pour lui à évacuer en quelque sorte toute forme de religiosité ou en tous les cas toute forme de foi de son point de vue, en tous les cas à lui. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans cette espèce d'ambiance progressiste, rationaliste, positiviste, socialiste, enfin etc., cette ambiance 19e siècle, Nietzsche perçoit que, dans une certaine mesure, la situation est relativement grave et que ce qui se présente comme une modernisation du christianisme annonce en fait quelque chose d'autre qui sera certainement le nihilisme. Et c'est peut-être une autre étape de la pensée de Nietzsche, de son itinéraire spirituel, une avant-dernière étape, c'est-à-dire cette volonté qu'il a eue d'être nihiliste jusqu'au bout, mais pour sortir du nihilisme, aller jusqu'au bout de la négation, aller jusqu'au bout de la critique de tout ce qu'il avait pu recevoir, non pas pour y séjourner, en quelque sorte, mais pour en sortir. Et bon, ça c'est le Nietzsche sans doute le plus connu, ce Nietzsche qui développe une véritable haine du christianisme et qui développe une apologie du paganisme, une manière, encore une fois, de vouloir sortir de quelque chose qui lui appartient sans doute beaucoup plus qu'au christianisme, c'est-à-dire cette fameuse culpabilité. Ce moment où, précisément, il philosophera contre toute forme de dichotomie entre le monde vrai et le monde apparent. Une philosophie donc fondée sur la volonté de puissance, identifiée justement à l'essence de toute chose, mais une volonté de puissance qu'il faut déclarer, qu'il faut assumer en quelque sorte, et selon laquelle il faudra, d'après lui, enseigner ou éduquer les générations futures. Et puis cinquième, peut-être et dernière étape de l'itinéraire spirituel de Nietzsche, cette espèce de fin un peu paroxystique, tragique, où on a l'impression que Nietzsche ne peut plus supporter, si j'ose dire, sa contradiction fondamentale que j'ai essayé de poser en introduction, mais où, d'une certaine manière, il va l'incarner. C'est-à-dire qu'il va s'identifier littéralement à toutes les forces qui le traversent et à ces deux forces principales qu'il appelle d'un côté précisément le Christ et qu'il appelle de l'autre Dionysos. Et ce qui est touchant et remarquable, c'est que dans sa correspondance à la fin de sa vie, il signe alternativement le crucifié ou Dionysos. Comme si, précisément, à ce moment-là, il ne pouvait plus tricher avec ce qui avait été finalement le cœur de toute sa vie, finalement. Cette tension, ce dialogue à la fois intime mais en même temps extérieur lié à toute l'histoire de la civilisation entre ce paganisme grec symbolisé par Dionysos, le dieu de l'excès, le dieu de ces fêtes précisément dans lesquelles on égorgeait le bouc qui étymologiquement a donné le mot tragique, on égorgeait le sang coulé dans l'orchestra, dans la fosse d'orchestre, c'est un pléonasme, et on dansait comme ça autour de cette fosse, et c'est ça l'origine de la tragédie, où on chante l'éternité de la vie, l'éternité de la souffrance. Et tous ceux qui en veulent, d'une certaine manière, à la souffrance, en veulent à la vie. C'est cette idée fondamentale chez Nietzsche, que toutes les philosophies et toutes les religions qui veulent expliquer le mal, qui veulent éradiquer le mal, qui pensent que le mal est un accident qui va s'arranger, sont des philosophies profondément haineuses, qui sont animées par le ressentiment à l'égard de la vie qui est donnée comme elle est, innocente et cruelle. Ça, c'est au cœur de la pensée de Nietzsche et de son itinéraire personnel qui, encore une fois, comme on dit vulgairement, finit mal. Mais n'avait-il point dit lui-même « Je suis de ces machines qui peuvent exploser ». Il avait une véritable conscience de ce qu'il était. Alors, troisième partie, qu'est-ce que Nietzsche a à nous dire aujourd'hui? Bon, c'est un choix ou une sélection, si j'ose dire, que je fais. Je retiendrai peut-être quatre points particuliers qui me paraissent très significatifs et intéressants. Premier point particulier, son fameux diagnostic de la mort de Dieu sur lequel je ne vais pas m'étendre. J'avais même fait ici même, je crois, il y a quelques années, une petite conférence sur ce sujet-là. La mort de Dieu, encore une fois, ce n'est pas une prise de position sur l'existence de Dieu, c'est simplement un diagnostic que pose le médecin de la civilisation sur le fait que les valeurs supérieures se dévaluent, comme s'il y avait une sorte d'épuisement du règne des valeurs supérieures qui faisait que la vie intellectuelle, culturelle et sociale était ordonnée au vrai, au bien et au beau. Une espèce de chute, de dévaluation. Ce n'est même pas les hommes qui dévaluent les valeurs supérieures, mais ce sont les valeurs supérieures qui se dévaluent au moment même où on les pense comme étant des valeurs. Je veux dire, l'axiologie, c'est déjà le nihilisme. Penser Dieu comme une valeur, c'est l'acte nihiliste par excellence. Car le propre des valeurs, c'est qu'elles sont fluctuantes. Elles montent et elles descendent. Donc la mort de Dieu, cette dévaluation des valeurs supérieures, pour Nietzsche, c'est pas du tout comme pour les braves positivistes rationalistes de son temps, un truc très sympathique qui inaugure une période de lumière et de progrès. Pas du tout. Nietzsche pense au contraire que cette mort de Dieu annonce à l'époque où il pense, à l'époque où il vit, une longue suite d'effondrements. Et toujours avec sa modestie légendaire, il dit « L'histoire que je raconte est celle des deux prochains siècles. » Manque de bol, on est encore au milieu du guet, mes amis. On est encore au milieu du guet. Et il y a quelques passages tout à fait extraordinaires, effectivement, au moment même où on patauge en plein optimisme, où Nietzsche dit « Je vous annonce des guerres comme il n'y en a jamais eu. Ces guerres se feront pour la domination de la terre entière au nom de philosophie. » Bon, je crois que voilà, le siècle, le XXe siècle, c'est le siècle de la guerre mondiale et de la guerre qui s'est faite au nom d'idéologie. Donc ce diagnostic de la mort de Dieu, on pourrait l'appeler dans le jargon contemporain la prescience ou l'intuition de la sécularisation de la sécularisation. Vous savez que la sécularisation, c'est le fait que l'ensemble de la société échappe à l'emprise de la religion. Si la laïcisation, c'est le fait que la sphère publique ou politique échappe à la religion, la sécularisation, ça veut dire que la société tout entière, les mœurs, échappent à la religion. Quant à la sécularisation de la sécularisation, eh bien c'est la déstabilisation des déstabilisateurs, c'est-à-dire précisément c'est le manque de foi dans la science, le manque de foi dans le progrès, le manque de foi dans le socialisme, Bref, le manque de foi dans tout ce qui a fonctionné de fait comme des religions de substitution. Le socialisme étant, je crois, quand même par excellence la forme sécularisée du christianisme. Et donc je crois que Nietzsche nous a prévenus du fait que quand la foi dans le Dieu vivant finira effectivement par se perdre, alors se perdra beaucoup d'autres choses que ce que, précisément, on croyait simplement lié à la foi en Dieu. Et que, justement, ceux qui voulaient prendre la place de la religion et des autorités antérieures allaient être elles-mêmes déstabilisées. Et peut-être le deuxième point qui me paraît très intéressant chez Nietzsche, c'est le lien profond qu'il fait entre la mort de Dieu et la mort de l'État. Et c'est vrai qu'il y a là certainement un essoufflement, un épuisement, sur lequel malheureusement je ne peux pas trop m'étendre, mais qui serait passionnant. Relisez le paragraphe 472 d'Humain trop humain. Et effectivement, dans ce paragraphe, il a une manière de décrire la manière dont la classe supérieure va se détourner à un moment donné de la religion. La classe supérieure s'intéresse toujours à la religion quand il s'agit de consolider sa domination, bien évidemment. Mais à un moment donné, elle juge que c'est plus utile, que ça ne fonctionne plus de cette manière-là. Elle devient elle-même irreligieuse, la foi dans l'État disparaît, etc. Et il annonce même quasiment une sorte de transfert des fonctions et des autorités à des entités privées. Enfin, c'est tout à fait prophétique, tout à fait fascinant. Et puis je pense aussi qu'on ne se rend pas bien compte du fait que la construction européenne est une chose totalement inédite dans l'histoire politique de l'humanité. Et peut-être qu'en lisant Nietzsche, c'est une manière de repenser à cette problématique-là. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la construction européenne, ce n'est ni l'État-nation, ni le fédéralisme. Vous savez que les grands fédéralismes qui fonctionnent bien, pourquoi l'Allemagne ou les États-Unis par excellence, justement ne fonctionnent bien que parce qu'ils sont sur le fond d'une identité nationale extrêmement forte. Et c'est parce qu'il y a une identité nationale extrêmement forte que le fédéralisme et le pluralisme est possible. Et donc le grand paradoxe de la construction européenne, c'est qu'il s'agit de casser l'État-nation sans pour autant non plus créer un fédéralisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça ne marche pas très bien entre nous. Mais c'est quand même passionnant. C'est-à-dire que quand vous lisez Nietzsche, il dit « Voilà, on en a fini avec la petite politique. Vient l'âge de la grande politique. » Et évidemment, Napoléon est pour lui un modèle absolu de ce qu'il appelle la virilisation de l'Europe. Hein, bon. Il dit « Voilà, Napoléon a tenté un truc, ça n'a pas marché, mais ça va revenir. » Une Europe d'un bloc qui retrouve ou qui trouve en quelque sorte son unité. Donc ce qui s'est passé effectivement, c'est que c'est une grande idée de Kant, on arrive toujours à la paix par la guerre, car la guerre crée l'épuisement, et après s'être épuisé, se suicider à coup de guerre mondiale, l'Europe se dit « bon, on va quand même tenter quelque chose, tellement on est fatigué ». Et on crée la CECA, la communauté, c'est-à-dire un système intégré qui fait que les États renoncent à une partie de leur souveraineté pour des raisons économiques. C'est le fameux discours de l'horloge de Schuman qui dit « l'Europe ne se fera pas d'un coup, mais par des petits pas, n'est-ce pas ? Par des petits machins, des petits compromis » qui fait que petit à petit on grignote la souveraineté d'une manière indolore sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Et la grande idée, c'est qu'on refoule la question de l'identité de l'Europe en disant « on n'y arrivera que par l'économie », ce qui est vrai. Et ça a marché. Ça a marché jusqu'à maintenant, où on affronte effectivement la question de savoir « mais qui est-on et que veut-on » Et sur un plan très pratique, quels sont nos ennemis? Car, bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Et donc, c'est très intéressant de relire Nietzsche du point de vue de la construction européenne et du point de vue de ce qu'il appelle la grande politique, par opposition à la petite politique. Je pense que c'est une vraie question. Il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Marc Ferry, qui a écrit, à mon avis, un des seuls philosophes qui ait vraiment posé ce problème dans un livre qui s'appelle « L'État européen ». Il est moins connu que Luc, qui est son frangin. Voilà. Alors, Luc, chez les philosophes, Luc Ferry est assez méprisé, parce que tout le monde connaît Luc Ferry. Par contre, Jean-Marc Ferry, c'est très chic, parce que c'est, c'est plus difficile à lire et c'est beaucoup moins connu. Bon, mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Donc, si vous vous intéressez aux problèmes philosophiques que pose l'Europe, lisez Jean-Marc Ferry et l'État européen en particulier. Troisièmement, je crois que Nietzsche a perçu, a compris la profondeur du phénomène religieux. Et là aussi, quelle différence avec les braves rationalistes, progressistes, positivistes. Enfin, encore, c'est un peu bête de dire ça, parce que si quelqu'un avait bien perçu la profondeur de la question religieuse, c'est Auguste Comte, paradoxalement. Enfin, passons. Mais je veux dire par là que l'ère post-moderne ne sera pas post-religieuse. Ça, je pense que Nietzsche nous le fait très bien comprendre. Et dans ce qu'il appelle lui-même le phénomène religieux, je crois qu'il a la force de percevoir, c'est typique de son époque, mais lui le fait peut-être plus qu'un autre, la profondeur des racines de la religion. Quand il dit que la religion n'est rien d'autre que la moralité des mœurs, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que précisément, avant tout était mœurs et tout était religion. Et qu'il y avait une identification très profonde entre la vie sociale et la vie religieuse. Il a compris ça, en quelque sorte. Il l'a expliqué, il l'a développé. Bon, je n'ai pas le temps, malheureusement, de le développer ici. Mais je crois qu'il l'a très bien, très très bien expliqué, très bien aussi pressenti, il en a eu l'intuition. Et si la religion a des racines extrêmement profondes dans l'histoire de l'humanité, car on oublie toujours que l'Homo sapiens sapiens, je veux dire, il a, je ne sais pas quoi, 50 000 ans ou 100 000 ans, j'en sais rien, enfin dans ces ordres de grandeur, c'est quand même relativement important. Il faut quand même savoir voilà, que ça fait des milliers, des dizaines de milliers d'années que l'homme jouit d'à peu près des mêmes capacités intellectuelles et physiques. Et que justement, ce que nous a appris l'ethnologie au XXe siècle, c'est que ces hommes qui vivent avec des critères extraordinairement différents sur le plan social et culturel sont tous sauf des débiles. Et donc, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on change notre représentation de l'histoire humaine. C'est-à-dire que nous, on est généralement les hommes préhistoriques qui sont un peu des cons, et puis l'histoire commence. En moins 3000, je sais pas quoi, on commence à écrire un peu, je sais pas quoi, l'État commence, les vraies religions commencent, et voilà, 5000 ans d'histoire. Mais c'est grotesque, 5000 ans d'histoire sur 100 000 ans d'Homo sapiens sapiens, grotesque. Donc la quille du bateau, la partie émergée de l'iceberg, vous comprenez ça, c'est 95 000 ans de religion et 5000 ans d'histoire. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Nietzsche le comprend. Et Dieu sait si les gens qui annoncent la fin de la religion sont des esprits superficiels. Voilà ce que Nietzsche nous dit dans les années 1880, et ça prend du sens, je crois, pour nous. Alors, non pas du tout que la religion revient à l'identique, mais il y a, je pense, quand même une actualité de ces questions-là, très, très prégnante. Puis, quatrième point, il répétait toujours que l'homme est un pont, une flèche. C'est très beau, hein, cette idée que, voilà, il dit parfois, de toutes les espèces, l'espèce humaine est la seule qui n'est pas encore fixée. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Voilà. Il a des blagues comme ça, c'est sympathique aussi. Il dit parfois aussi, non, l'homme ne peut pas descendre du singe, c'est un animal bien trop débonnaire. Bon, mais ça, c'est une blague nietzschéenne. Mais cette idée du surhumain, c'est ça. Mais ça, ça correspond aussi à ce que nous apprend la science. C'est-à-dire l'évolution, ce qu'on appelle l'hominisation. Ou encore, ça c'est pas Nietzsche, je ne sais plus qui disait ça, le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous. C'est très profond. Donc il y a cette idée-là chez Nietzsche, effectivement, c'est que l'homme n'est pas fixé, nous sommes en évolution, nous sommes en chemin, et je crois qu'il ne faut pas du tout prendre le surhumain pour Superman. C'est pas ça, je crois, chez Nietzsche, même s'il y a des textes qui sont assez violents chez Nietzsche. Et j'aime bien cette idée très nietzschéenne, je pense qu'il pensait à lui. Il disait « pitié pour les forts, mais les forts en humanité, qui sont toujours finalement la proie des médiocres ». Il pensait à des types comme Pascal, voilà, hein, voilà, des Stradivarius au milieu des grosses caisses. Il y a une publicité qui dit « quelques grammes de finesse dans un monde de brutes ». Voilà, mais c'est tout à fait Nietzsche, ça. Donc le surhumain, c'est pas Batman. Hein, c'est une humanité qui n'a pas encore pu exprimer ce qu'elle pouvait être. Et je pense que c'est quand même une idée très intéressante, non seulement du point de vue, encore une fois, scientifique, Du point de vue aussi inquiétant, à savoir que par l'art et par la technique et par la science, c'est une question qui se pose concrètement à nous de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a presque les moyens de changer ou d'intervenir sur le génome, bref, de fabriquer, d'intervenir. C'est-à-dire que Nietzsche a compris que le concept de nature allait exploser littéralement. Voilà. Autant il croit au fait qu'il n'y a pas d'autre monde que notre monde, mais il n'y a aucune nature, aucune loi de nature qui tienne. Il y a peut-être une évolution, des bifurcations, mais il y a aussi peut-être des catastrophes possibles. Et je crois qu'il faut y penser. Pour conclure, car il faut conclure, si on retourne au cœur de l'équation personnelle de Nietzsche, que faire de la souffrance en général, que faire de sa propre souffrance et de celle des autres, compte tenu justement de notre aspiration à la joie et non pas à la souffrance. Donc je pense que Nietzsche est très profondément chrétien dans l'affirmation de son individualité. Je dis bien de son individualité, ce qui n'est pas la même chose que l'individualisme, je crois. Et dans un oui à la vie, comme marche vers l'avenir, mais qui ne peut pas faire pour autant l'économie de la souffrance. Toujours cette idée que le destin, ce n'est pas forcément quelque chose qui est inscrit dans les choses, mais comme on dit parfois vulgairement, mais je crois que c'est malheureusement très profond, notre destin, c'est notre caractère. Et notre caractère, c'est le produit de notre code génétique et de notre histoire, et de notre histoire dans l'enfance en particulier. Et à un moment donné, quand bien même on peut donner quelques coups de barre, effectivement, pour infléchir, on tire un peu des bords, on prend des riz, on fait des petits machins. Enfin, grosso modo, tout le monde sent bien qu'on a une équation, en quelque sorte. Toute la noblesse de l'homme, c'est de comprendre cette équation, en quelque sorte. De se hausser jusqu'à la compréhension de cette nécessité, qui était la manière qu'avait Spinoza pour définir la liberté comme intelligence de la nécessité à laquelle nous sommes soumis. Alors moi, je crois en tous les cas que contre les disciples de Nietzsche, qui ont toujours un côté un peu ridicule, il faut retourner en quelque sorte la pensée de Nietzsche contre lui-même, il me semble. Et que... dans sa tentative de déculpabiliser la souffrance, dans sa tentative, de construire une philosophie tragique de l'existence, je pense qu'il ne voit pas dans quelle mesure, finalement, le christianisme y répond peut-être mieux que toute forme de religion ou que toute autre forme de philosophie, puisque, me semble-t-il, dans la foi chrétienne, il y a deux choses. Un optimisme et une espérance qui sont absolument invincibles, mais sur le fond d'une conscience tragique, dont la croix, qui est dépassée, mais qui est quand même traversée, est à la fois le symbole et le témoin historique. Après tout, peut-être que le passage fondamental du symbole des apôtres, le reste des discussions théologiques, c'est... Il a souffert sous Ponce Pilate. Ça, c'est béton. C'est historique. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais il y a cela, me semble-t-il, et peut-être que l'espérance et l'optimisme chrétien est sérieux à cause même de cette conscience tragique qui ne veut pas mentir. Rien n'est plus insupportable que les gens qui vous disent que tout va bien ou que tout va s'arranger forcément, etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais oui, c'est, je crois. Et c'est vrai que, en présence de Théodore Monod, en me vautrant dans une idolâtrie ignoble, mais Théodore Monod disait souvent, je crois, on n'a encore jamais essayé l'Évangile. C'est une très belle formule. Je crains qu'elle ne soit pas vraie. Je crois qu'on a essayé l'Évangile, effectivement, et qu'à chaque fois qu'on l'essaye, on se heurte, effectivement, à quoi ? Au monde, tout simplement. Voilà. Et le message de la foi chrétienne est très clair sur la nature du monde. Monde vaincu, traversé, oui, mais, ma foi, il est toujours ce qu'il est. Donc je ne crois pas qu'on ait jamais essayé l'Évangile, mais je crois qu'en lisant Nietzsche, ça peut nous faire comprendre que nous sommes vraiment à l'aube du christianisme. Et je crois qu'il faut apprendre à profondément changer notre perception de l'histoire. Encore une fois, il faut comprendre, bien sûr, évidemment, si on fait sauter la planète avec une bombe atomique, bon, ben, le problème ne se posera pas. Mais si on évite ce genre de catastrophe, 2000 ans, c'est ridicule. Nous sommes les premiers chrétiens. Nous ne sommes pas encore humains. Si la planète ne saute pas, un jour, il y aura des hommes qui parleront, en 100 000 après Jésus-Christ, ils parleront des hommes du 21e siècle. Nous sommes les premiers chrétiens par rapport au programme de l'Évangile. Donc cette aube du christianisme donc, nous apprend ou nous apprendra toujours qu'il faut aimer le monde. Et ça, c'est l'enseignement de Nietzsche. Il faut aimer le monde. Et moi, ça ne me dérange pas. Moi, je me sentirais bien New Age, d'une certaine manière. Pourquoi pas? Et c'est vrai qu'il va falloir affronter cette question au-delà du problème que peut poser sur le plan politique et géopolitique le monde arabo-musulman. Bon, nous sommes déjà confrontés à la question de la nature et à la question de savoir quel statut lui donner et comment la ménager pour ménager notre propre existence. Comment accueillir cela? Comment reconnaître la grandeur, la beauté, le caractère nourricier et maternel de la nature, sans pour autant rebasculer dans je ne sais quel paganisme? C'est-à-dire, lisons Nietzsche pour mieux aimer le monde. Je veux dire, le miracle des miracles, c'est le corps, bien sûr, bien évidemment, le corps vivant, pas le corps mort. C'est ça le miracle des miracles. Le monde, la nature. Mais en même temps, tout cela n'est vraiment miraculeux que s'il est traversé par la parole. Une parole qui vient d'ailleurs et qui nous mène ailleurs. Et alors à ce moment-là, on apprend à conjuguer, à marier ce dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire ces deux tendances de la vie de l'esprit, encore une fois. L'une qui nous porte plus vers l'immanence et l'autre plus vers la transcendance. Et qui nous fait comprendre ce que c'est qu'un itinéraire spirituel, hein, c'est-à-dire d'abord un chemin, et qui peut-être mène à la vérité et à la vie. Merci.